punchline à 18h parce que vous avez la France en face à 21h avec Sonia et Laurence qui reçoivent Robert Ménard. La France bouge arrive avec Aurélien Fleureau. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Pierre, ce soir émission consacrée à l'automobile avec Édouard Georges, le directeur de Citroën France. On va également parler de voitures de rêve, de collection avec le directeur du salon Rétromobile.
Eh ben, j'ai bien fait de parler de Citroën juste avant. Merci Aurélien, bonne soirée.
Europe 1, 21h. Le point sur l'actualité, c'est avec vous Maël Hassani.
Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Avec un certain regret et un peu d'amertume, Sébastien Lecornu affirme qu'il utilisera finalement l'article 49.3 dès demain pour faire adopter sans vote le budget de l'État à l'Assemblée. Le Premier ministre avait renoncé à cet outil constitutionnel à son arrivée à Matignon. Il reconnaît ce soir un semi-échec. LFI et le RN annoncent déposer des motions de censure, mais le PS ne va pas les voter, ce qui devrait sauver le gouvernement. Le bilan s'alourdit en Espagne. Au moins 40 personnes sont décédées hier soir dans une collision entre deux trains à grande vitesse en Andalousie. D'autres victimes pourraient être recensées dans les 48 prochaines heures, selon le président de la région. Les causes de l'accident restent inconnues. 3 jours de deuil national décrétés dans le pays. La France n'entend pas donner de suite favorable à l'invitation des États-Unis à siéger dans le nouveau Conseil de la paix, une instance internationale créée par Donald Trump et qui devrait permettre au président américain de contourner l'ONU. Le tarif pour un siège permanent est fixé à 1 milliard de dollars. Le Maroc annonce ce soir répondre favorablement à cette proposition. Le Danemark et le Groenland proposent la création d'une mission de surveillance de l'OTAN dans le territoire arctique convoité par les États-Unis. Une mesure avancée au plus fort des tensions entre l'Europe et Washington. Donald Trump menace toujours d'imposer des surtaxes douanières aux 8 pays qui ont envoyé des troupes sur l'île la semaine dernière. La France en fait partie. Après 3 jours de discussion à l'Élysée, Emmanuel Macron annonce un nouveau compromis sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Un accord complémentaire à l'accord de Bougival signé l'été dernier. Ces nouvelles discussions sont boycottées par les indépendantistes du FLNKS. Les choses peuvent bouger. Les mots de Monseigneur Mathieu Rouget, invité d'Europe 1 soir, à la veille des débats sur la fin de vie dans l'hémicycle du Sénat. L'évêque de Nanterre espère que le texte contiendra davantage de garde-fous que la version adoptée à l'Assemblée il y a quelques mois. Version qui prévoit de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté pour les malades dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Plusieurs Colombiens lourdement armés interpellés la nuit dernière à Lyon juste avant de commettre un règlement de compte sur fond de narcotrafic. 4 suspects se trouvaient à bord d'une voiture volée et semblaient sur le point de passer à l'acte. Le 5e homme retrouvé dans un appartement probablement utilisé comme une planque. Un homme est décédé aujourd'hui dans une avalanche dans les Alpes. Ce trentenaire faisait partie d'un groupe de 6 skieurs qui évoluait hors piste dans le couloir du Lavancher à Val d'Isère en Savoie. Les faits se sont produits en fin d'après-midi. 300 foyers privés d'électricité ce soir dans l'Aude. Une 50aine de routes toujours fermées à la circulation. 2 personnes hospitalisées en urgence absolue après des accidents liés aux intempéries. Mais la situation s'améliore dans le département où l'alerte orange devrait être levée dans moins d'une heure. Et puis une icône de la haute couture vient de s'éteindre. Le styliste Valentino est mort aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il restera dans l'histoire comme le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York. C'était en 1970. Vous écoutez Europe 1, il est 21h03 et vous retrouvez La France bouge avec Aurélien Fleureau.
Merci Maël, prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera avec vous à 22h dans un instant sur Europe 1, émission consacrée à l'automobile avec Édouard Georges, le directeur de Citroën France.
Demain soir, CNews et Europe 1 vous donnent rendez-vous de 21h à 22h pour La France en face.
Une heure d'entretien en toute liberté avec Robert Ménard.
Maire de Béziers, Robert Ménard répondra aux questions croisées de Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk.
La France en face, demain soir, de 21h à 22h,
en direct et en simultané,
sur CNews et Europe 1.
Vous êtes avec votre amoureux sur les canapés, et vous jouez à qui cuisine ce soir. Vous avez rangé l'appart, il a passé l'aspi, ça fait un partout. Ah, là, va falloir négocier. Alors vous commandez des sushis sur Deliveroo, et lui, il étendra le linge. Même pas obligé de lui dire que vous avez profité de l'offre un plat acheté, un plat offert. Et voilà votre Deliveroo. Ah, là, on est bien.
Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, la France bouge.
21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour La France Bouge, votre rendez-vous quotidien consacré à l'entrepreneuriat, à celles et ceux qui font l'économie, grandes entreprises, start-up, aventures personnelles au menu chaque soir. Et aujourd'hui, une émission consacrée à l'automobile. C'est le moyen de transport choisi par 86% des Français dans leur trajet quotidien, selon une dernière étude Ipsos. Indispensable, pratique, mais de plus en plus cher. Le marché des voitures neuves chute inexorablement depuis 3 ans. Alors comment inverser la tendance? En baissant les prix, facile à dire, mais est-ce possible? Eh bien, nous verrons ce soir que Citroën se positionne pour y parvenir. Nous recevons Édouard Georges, directeur de Citroën France. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Édouard. On va parler nouveautés, électrification, mais pas que. Rendez-vous dans quelques secondes. À mes côtés tout au long de cette émission, notre coach du soir, Gilles Attaf. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là, Gilles, président de la certification Origine France Garantie. Vous allez notamment nous livrer votre regard sur notre pépite du soir. Comment la résumer? Comment la présenter?
Avec grand plaisir. Moi, je suis toujours ravi de pouvoir mettre en avant une entreprise française qui se développe au niveau européen. Donc, ravi d'être parmi vous ce soir.
Et c'est donc One Park, l'entreprise que vous présidez et que vous avez co-fondé, David Vandenborn. Bonsoir.
Bonsoir Aurélien, merci pour l'invitation.
Merci David d'être là également. Optimisation des places de parking, alors on va parler de ce qui se passe dans les aéroports, les gares, les hôtels, notamment une innovation lancée il y a 10 ans et qui a bien grandi et qui a encore de belles ambitions. On y revient dans quelques minutes. Enfin, dernière partie de notre émission qui va nous permettre à la fois de rêver à des voitures mythiques et puis peut-être aussi de retomber en enfance, de se souvenir des voitures d'il y a 20, 30 ou 50 ans. Elles seront mises à l'honneur dans quelques jours au salon Rétromobile à Paris. Et pour en parler, Romain Grabowski, bonsoir.
Bonsoir.
Merci Romain d'être là également, directeur de Rétromobile. On se retrouve en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme. On peut lâcher le frein à main. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1,
21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
J'aime, j'aime, j'aime.
Julien Clerc, j'aime, pour cette publicité de 1984. C'était pour la BX à l'époque. Clin d'œil, évidemment, vous l'avez compris, à notre invité du soir, qui, lui, je crois, n'est pas venu en BX aujourd'hui.
Europe 1, l'invité de La France Bouge.
Oui, Edouard Jean.
Effectivement,
allez-y.
Je ne suis pas venu en BX, mais plutôt avec nos nouveaux SUV C5 Aircross.
C'est ça, c'est un peu la nouveauté pour vous qui mériterait une pub. Alors peut-être pas avec Julien Clerc, mais on verra effectivement que c'est la nouveauté principale pour vous. Édouard Georges, directeur de Citroën France. Alors petite présentation avant de parler évidemment de produits d'électrification du marché auto. Vous avez 46 ans, vous êtes lyonnais. Quelles études avez-vous fait avant d'arriver vers l'automobile? Parce que je crois que l'automobile, pour le coup, c'était...
Alors ça a été un choix, mais pas un choix dans mes études, puisqu'au début j'ai fait Sciences Po Lyon, puis après une école de commerce, l'UM Lyon.
Voilà.
Et puis j'avais envie d'un secteur avec des produits nobles, et puis je trouve que l'automobile c'est vraiment un produit qui est noble, qui répond aux usages de tous, donc j'ai choisi de rentrer dans l'automobile juste après mes études, et j'y suis depuis 22 ans dans le groupe PSA, et puis Citroën depuis le mois de mars.
C'est ça, effectivement. Donc, dans ce groupe PSA qui est devenu
Stellantis,
il y a 5 ans et qui a regroupé de nombreuses marques. PSA qui était avant Peugeot et Citroën, puis Opel, là, pour faire l'historique rapide pour nos auditeurs si jamais il y a besoin. Avec notamment des moments, du coup, vous avez connu ces différentes périodes parfois complexes, notamment 2013-2014. On peut presque dire que PSA est au bord du gouffre avant de renaître. Comment vous l'avez vécu, vous, à cette époque-là?
Alors, moi, j'ai vécu de l'intérêt, puisqu'à cette époque, j'étais patron des succursales de Citroën et de Peugeot à Paris. Et puis, on l'a vécu auprès de nos clients, justement, en se réinventant avec des offres qui étaient particulièrement attractives. Et on s'est réinventé également par les produits, puisque de toute façon, l'automobile, c'est une histoire de produits et d'innovation. Donc, quand on a un produit qui plaît, on redémarre. Et c'est ce qu'on a fait ensemble en 2013-2014.
Oui, parce que c'est vrai que là, en 10 ans, il s'est passé des choses quand même spectaculaires dans le groupe.
On a l'innovation ne s'arrête jamais.
Avec ensuite, en plus, Stellantis. Donc voilà. Même si je pense que Citroën, ça fait partie de ces marques que les Français connaissent, et ben vous n'échapperez pas au pitch. Comment présenter Citroën en une minute en 2026? C'est à vous, allez-y.
Alors bonsoir, je vais vous parler de la marque Citroën. C'est une marque effectivement qui parle au plus grand nombre, une marque iconique française qui existe depuis plus de 107 ans et avec laquelle les Français partagent à minima des anecdotes et puis beaucoup de souvenirs et souvent des tranches de vie. Alors quand on partage une telle histoire, c'est un peu comme dans une famille, on ne peut pas faire semblant. Et c'est vrai que ces dernières années ont été un peu exigeantes pour nos clients, pour nos partenaires, mais aussi pour nous. Mais on est en 2026, la marque a bel et bien changé, pas dans ses mots, mais dans ses choix et dans ses actes. Aujourd'hui, Citroën propose une gamme totalement renouvelée, au style affirmé, c'est l'une des plus jeunes du marché, Elle a été pensée pour tous les âges, de 14 à 99 ans et même plus, et pour tous les usages. On offre le pouvoir du choix à tous, en termes de silhouette, en termes d'énergie, et tout est possible grâce à une gamme qui est du coup accessible, fiable et utile, et qu'on garantit pendant 8 ans. Alors on a des Citroën électriques à moins de 14 000 euros, des amis, des SUV familiaux, des utilitaires, et on revient à ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire simplifier la mobilité et l'offrir au plus grand monde, c'est ce qu'on cherche à faire. On est une marque qui est chaleureuse, qui a un passé avec les Français, on est créatif, on se préoccupe de nos clients, et on va de l'avant, notamment en s'engageant dans des nouveaux défis comme le sport automobile avec la Formule I.
Et bien,
on est
parfait.
Une marque engagée en 2026, ça sera encore plus beau, on va voir la vie en Citroën.
Il y a un programme effectivement pour 2026 avec pas mal de choses, Edouard Georges, pour vous, pour cette émission. Notamment, alors voilà, les produits, vous l'avez dit, la gamme Citroën en 2026, comment vous pourriez la résumer? C'est à la fois la C3 qui est un incontournable, et on va en parler avec différentes motorisations, et puis le petit dernier entre guillemets, parce qu'il n'est pas si petit que ça, le C5 Aircross, un SUV familial 100% électrique, fabriqué à Rennes, hein, si je ne dis
dont on est très fiers, effectivement, le C5 Aircross, notre dernier SUV, notre dernier né, on va dire que c'est un peu le fleuron de la marque Citroën.
C'est ça.
Et on l'a lancé au mois de septembre, et donc du coup, effectivement, il affirme tout ce que Citroën veut faire de mieux, c'est notre ancien C5 Aircross en plus grand, en plus beau, en plus technologique, et en ayant vraiment en fait toujours en fait l'ADN commun de toute notre gamme, c'est le pouvoir du choix. On a des véhicules qui sont multimotorisés, donc on choisit du thermique ou de l'électrique, parce qu'évidemment on est une marque qui veut offrir de l'électrique accessible à tous, et on a aussi une gamme, une silhouette, des silhouettes affirmées, un style qui est fortement identifiable. En moins de 2 ans en fait, on a remplacé l'ensemble de nos produits, donc de la C3 à la C5 Aircross,
c'est ça.
Et c'est pour ça qu'on a cette gamme qui est relativement jeune sur le marché.
Et la C3, forcément, l'incontournable aussi, un peu plus citadine, évidemment, avec là aussi une proposition en électrique, mais pas que. C'est un choix aussi, forcément, de proposer ces options-là aux consommateurs, aux automobilistes. Certains, pour l'électrique, vont y passer, adorer, parce que ça correspond à leurs besoins et que c'est un plaisir de conduire une voiture électrique. Mais pour d'autres, ça peut être contraignant. Donc, il faut forcément encore en 2026 proposer cette diversité-là.
Oui, vous l'avez dit, Aurélien, en fait, on veut vraiment offrir le choix à nos clients et à nos consommateurs. C'est pour ça que sur tous nos véhicules, on a l'électrique ou des motorisations thermiques ou plug-in hybride. Et sur la
Donc
C3,
ça veut dire plug-in hybride, je branche pour
recharger, et j'ai une autonomie de l'ordre de 100 km sur C5 Aircross avec un moteur électrique, le reste étant assuré par un moteur thermique. Mais la C3, effectivement, en fait, on croit vraiment que c'est une offre qui peut vraiment plaire au plus grand nombre. Elle commence avec les primes CE à 13 990 €. Donc c'est une voiture qui est produite, fabriquée en Europe, à moins de 15 000 euros et qui est donc en motorisation électrique. Donc c'est très important pour nous, de toute façon, qu'on soit en électrique ou en thermique, d'aller chercher au fait des prix accessibles, parce qu'au fait, dans son histoire, Citroën, c'est une marque qui a accompagné les Français dans leur évasion, dans leur mobilité. Et évidemment, du coup, on est à la recherche de ce bon compromis pour nos clients, en leur offrant un peu plus que nos concurrents à un prix qui est accessible.
Et justement, avec ce sujet du prix, hein, qui est central en ce moment pour l'industrie automobile, les prix des voitures neuves ont pris quasiment 40% en 5 ans. Sur 15 ans, ça a même parfois doublé pour des modèles équivalents. Alors d'abord, comment on peut l'expliquer à nos auditeurs? Et puis, pour certains, n'ont peut-être plus les moyens d'acheter neuf, ou en tout cas doivent faire évoluer un petit peu leur besoins et leur envie. Et comment on y remédie? Donc là, vous avez notamment évoqué, ne serait-ce que moins de 15 000 euros, c'était quasiment inédit sur le marché. Il n'y en a quasiment plus de voitures neuves à moins de 15 000 euros. Donc là, il y a les aides gouvernementales, mais malgré tout, c'était une vraie volonté pour vous, pour la marque, de proposer ce type d'offre qui n'existait plus.
Parfaitement. Et puis au fait, on a cherché, depuis que je suis arrivé, à redonner de la lisibilité et à redonner vraiment un prix qui veut dire quelque chose pour les Français. Alors on a effectivement, vous l'avez dit, cette C3 à 13 990 avec le bonus C2E, mais aussi en cœur de gamme, on offre une C3 Aircross, donc un SUV, un petit SUV parfaitement adapté à tous les usages pour la famille, une C4 qui est une berline un peu plus confortable, et un berlingot à 259 euros par mois. En fait, on est en train vraiment d'essayer de repositionner toute notre gamme sur des offres qui sont du coup accessibles pour tous et pour tous les clients.
Et sur l'explication de pourquoi ça a flambé autant. Alors il y a plein de choses,
la
guerre en Ukraine notamment, sur certaines pièces, etc.
Il y a aussi du coup des normes gouvernementales, puisque du coup, en fait, tous les véhicules ont des ADAS et ont toute une part de technologie qui renforce les coûts de production qui explique une partie de ce prix. Mais en fait, on essaye maintenant de redonner les bons prix à nos clients.
Est-ce que sur certains modèles, on fait des choix justement pour se dire, bon, peut-être que ce côté un petit peu tech sympa va être gadget, donc pour certains, pour faire baisser le prix, mieux vaut ne pas le mettre sur des petites choses qui pourraient paraître gadget, et que, alors que d'autres vont adorer les avoir et ne pourraient pas s'en passer. Est-ce qu'on arrive à équilibrer un petit peu cet aspect-là?
En tout cas, chez Citroën, on essaie de mettre en avant des technologies utiles pour tout le monde. Donc, on ne va pas forcément avoir la dernière technologie qui va permettre, par exemple, de recharger son véhicule en très peu de temps, mais on a du coup toujours un bon compromis entre la technologie et l'usage. Par exemple, si je prends à nouveau C5 Aircross, on va passer de 20% à 80% d'autonomie électrique en moins de 30 minutes, ce qui est tout à fait acceptable fait dans le marché. Donc, en fait, on va chercher ces équipements qui vont permettre d'être bien positionnés et du coup d'aller offrir ces meilleurs prix à nos clients.
Et vous l'aviez évoqué en termes de prix mensuel, cet aspect justement de location longue durée ou avec option d'achat, c'est vraiment la manière maintenant d'accéder à la voiture neuve, c'est avoir en tête un prix mensuel pour accéder à une voiture neuve. Est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent comptant ou un crédit classique ou,
il y en a toujours, mais c'est vrai qu'en fait on arrive à positionner un budget mensuel avec des loyers, et c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à communiquer en loyer.
Ouais, c'est ça.
Mais on donne aussi du coup aussi une notion de prix, ce qu'on appelle un prix net, hein, comme sur la C3 13990, mm-hmm. parce que du coup ça parle aussi, on est du coup dans un univers où on va pouvoir acquérir un véhicule à moins de 15 000 euros. Donc stratégie mensuelle, et puis également des prix nets également qui permettent de se repérer dans le marché, puisque c'est vrai que sinon on parle beaucoup de loyer, mais on en perd un peu la valeur.
Ouais, c'est ça. Et dans cette logique aussi de relancer le marché automobile, c'est pas du tout un sujet uniquement français, c'est partout en Europe. L'Union européenne a justement commencé à prendre quelques mesures, des aides, notamment un accompagnement pour les voitures plus petites, en tout cas jusqu'à 4,20 m. Ça, typiquement pour vous, c'est ça va dans le bon sens de, encore une fois, arriver à faire baisser les prix, avoir des conditions qui soient un peu différentes entre effectivement une voiture qui mesure 4 m et une grande berline, un grand break ou un grand SUV 7 places. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes besoins, répondre aux mêmes réglementations.
Non, mais effectivement, on a eu beaucoup de clients qui étaient partisans de ces petites voitures citadines, qui en avaient beaucoup, soit en deuxième véhicule, soit même en premier véhicule. Et donc, effectivement, on s'interdit pas de réfléchir et puis de développer des nouveaux produits qui pourront aller vers ces véhicules plus petits, puisque ce fait, c'est une part du marché sur lequel, en fait, tous les constructeurs ont un peu perdu la main. Il n'y a plus une offre pléthore sur ces véhicules. Alors même qu'en 2019, il y avait énormément d'offres sur ce segment des petites voitures. Donc,
on ne s'entendait pas presque trop cher à produire globalement. Je prends un exemple d'un concurrent Renault avec la Twingo qui avait fini par arrêter parce que ça devenait trop cher. En tout cas, notamment pour l'électrique, on a vu qu'ils ont fait un choix totalement différent. En tout cas, voilà, il y avait ce type de petites voitures. Elles ont disparu parce que ça devenait presque trop cher à produire.
Donc, c'est à nous de trouver la solution pour les reproduire et puis pour les offrir à nouveau sur le marché, et donc on va faire tout ce qu'on peut pour y répondre.
Effectivement, l'électrification, donc ça change évidemment beaucoup de choses pour les clients, et pour vous, dans cette logique de multimotorisation, est-ce que c'est vraiment permis par ce que propose un groupe comme Stellantis, qui est évidemment un groupe franco-italo-américain, et avec donc des plateformes, pour que nos auditeurs comprennent, qui permettent de moduler un petit peu et de permettre de ne pas être que à 100% sur une technologie. Ça, clairement, c'est le fait de faire partie de ce type de groupe, ça permet ça aussi.
C'est une force, effectivement, puisqu'en fait, on permet d'avoir un développement de ce qu'on appelle donc les plateformes qui sont chez Stellantis multimotorisées. Donc, et sur ces plateformes, on vient construire, au fait, une identité de marque, une identité qui est très forte, et on en bénéficie à plein régime chez Citroën, puisque du coup, tous nos véhicules, ils sont à la fois sur ces motorisations thermiques ou électriques, mais avec un style qui est affirmé et qui permet d'aller chercher justement de la compétitivité et donc d'être du coup cet acteur sur le marché que je vous décris en mobilité accessible.
Et toujours sur cette logique de prix, forcément, on voit que le marché de l'occasion, lui, est assez dynamique. Il y a beaucoup plus de voitures d'occasion qui se vendent que de voitures neuves. Là, comment se positionne aussi Citroën? Qu'est-ce que vous avez observé, par exemple, en 2025, en termes de transactions, de voitures recherchées? On sait que, notamment, les très anciennes sont assez recherchées parce qu'elles coûtent moins cher, tout simplement, et qu'on en a besoin. On l'a compris avec ce sondage que je citais en début d'émission, d'une voiture pour se déplacer. Comment ça s'est passé sur le marché de l'occasion pour vous?
Alors, sur le marché de l'occasion, on a très bien vendu, en fait, tous nos best-sellers, hein, comme notamment la C3, avec des prix qui justement sont autour de 150 euros par mois sur le marché de l'occasion. Donc ça permet en fait de le dynamiser, ça permet aussi d'offrir une deuxième offre avec du coup une deuxième vie de ces véhicules, voire une troisième vie. Mais c'est vrai qu'en compte constructeur, on est plutôt sur la deuxième vie du véhicule d'occasion et on voit qu'il y a quand même eu un regain et un intérêt. Mais alors que ce soit pour le véhicule d'occasion ou pour le véhicule neuf, il y a aussi une attente de nos clients en termes de réassurance. Et c'est pour ça que sur le véhicule neuf, on a lancé la garantie 8 ans hein, pour réassurer sur la longévité et la qualité de nos produits. Et on a également des aides spécifiques également et des garanties spécifiques sur les véhicules d'occasion pour donner en fait l'impression, en tout cas le sentiment et la vérité que nos véhicules sont fiables et que le client ne va pas être au bord de la route avec nos véhicules.
Mais ça, c'est un vrai engagement, les 8 ans, effectivement, que ce soit pour le neuf ou pour l'occasion, pour être rassuré, effectivement, parce qu'on l'a compris, c'est un budget, l'automobile, donc forcément, ça va, c'est assez cohérent de proposer ça également. J'avais envie qu'on se dise un mot de ce concept que Citroën a présenté il y a quelques jours, quelques semaines à peine, c'était début décembre, si je ne dis pas de bêtises, Hello. E-L-O.
Oui.
Alors là, c'est de la radio. On pourra mettre une image sur Europe1.fr ou Europe 1 TV. Mais voilà, à vous de nous décrire un petit peu ce qu'est ce concept. On est sur un nouveau type de monospace un peu futuriste. Comment vous, multi-usage, comment vous pourriez le
déjà,
décrire?
Déjà, chez Citroën, nos concept car, ils illustrent, ils vont très loin en innovation. Et je vous invite d'ailleurs, dès la semaine prochaine, à découvrir à Paris Hello au Salon Rétromobile, dont on parlera tout à l'heure.
Effectivement.
Parce que Hello sera présent sur le stand Citroën à Rétromobile.
Il n'y a pas que des anciennes voitures, on le verra avec Romain Grabowski en fin d'émission.
Mais c'est un concept en fait, qui illustre en fait, l'innovation et puis l'envie Citroën de proposer des choses nouvelles. C'est un véhicule qui permet de mettre 6 personnes avec des usages à la fois de déplacement mais aussi des usages de télétravail ou des usages d'évasion. Plein de partenariats qui sont absolument remarquables avec d'autres marques, hein, des partenaires comme Decathlon, notamment sur ce concept, des pneumatiques
également. Parce qu'il faut l'imaginer donc avec différents usages, bon évidemment rouler, oui, pas mal pour une voiture, mais en tout cas quand elle est à l'arrêt, en fonction des besoins.
C'est jusqu'à 6 personnes dans 4 ouais. 10, donc ça c'est grâce à une plateforme électrique pour le coup, et puis des usages un peu différents. On a vu par exemple Hello dans les images peut-être qu'on diffusera à Rétromobile ou en tout cas sur nos sites internet, avec la capacité du coup de pouvoir s'installer avec un lit à la belle étoile, de transporter des objets, de pouvoir télétravailler avec des tablettes. Donc au fait, on a essayé de mettre dans ce véhicule...
Bouger la position des sièges,
il y a beaucoup de modularité, beaucoup de simplicité également, beaucoup de matériaux qui sont des matériaux renouvelables et renouvelés. Donc ça permet aussi de faire une voiture plus légère. Donc on a vraiment en fait avec Hello fait une jolie proposition de ce que pourrait être l'automobile de demain et qui pourrait nous inspirer pour des futurs véhicules.
Donc voilà, pas quelque chose de massif mais justement de modulable et de pratique, c'est vraiment l'idée.
Modulable, pratique, léger, ouais, et à la fois très innovant avec des lignes très pures, hein, sur ce concept, et puis des couleurs et matériaux qui peuvent évoquer le futur avec cette couleur orange qui est dominante sur Hello.
Effectivement, un orange flashy qu'on pourra donc découvrir notamment sur le salon Rétromobile. Allez, deux, trois petites questions un peu en mode rafale avant de terminer. Donc voilà, quelques secondes, questions rapides, réponses rapides. Par exemple, diriger une marque automobile pour vous, est-ce que c'est d'abord gérer l'aspect technologie ou l'aspect usage ?
C'est gérer l'usage de nos clients et répondre à leurs attentes.
Une question un peu plus personnelle. Votre rapport justement, vous, à la voiture, c'est un objet, c'est pratique, c'est du plaisir ?
C'est l'évasion, c'est partir avec mes enfants le week-end en vacances et aller où je veux avec ce véhicule.
Allez, on repasse aux questions pro. Le plus grand défi de Citroën sur le marché français là, en ce moment?
Le plus grand défi, c'est de réussir notre stratégie d'être accessible à tous, à la fois sur le marché des particuliers et sur le marché du B2B. Mais je suis confiant puisque en fait, nos premières tendances de commandes du mois de janvier sont plutôt prometteuses.
Et le trajet en voiture que vous préférez, donc là sur le côté perso, celui que vous faites les yeux fermés sans GPS?
Paris-Arcachon.
Voilà, c'est pour des racines familiales ou
racines
vacances,
familiales, effectivement,
voilà,
racines familiales.
Très bien. Innover sans perdre l'ADN d'une marque historique, est-ce que pour vous c'est risqué ou est-ce que c'est logique en 2026 de dire bah voilà, il faut arriver à trouver le bon équilibre?
S'appuyer sur notre passé pour être présent et puis aller vers le futur, c'est-à-dire tenir compte de nos racines pour innover, c'est vraiment un défi et c'est quelque chose qui est absolument stimulant quand on dirige une marque automobile française.
Allez, dernière petite question, le moment où vous décrochez vraiment du travail, même mentalement, vous avez garé la voiture, alors venir ici, c'est évidemment parce que c'est un plaisir, mais voilà, le moment où vous dites ok, là je ne pense à rien d'autre.
Quand je m'élance sur les pistes de ski en mars, quand je m'élancerai en mars sur les pistes de ski.
Bon, ça viendra bientôt, parfait. Merci Edouard Jean
pour
rester évidemment avec nous. La France bouge jusqu'à 22h sur Europe 1. On revient juste après cette première pause musicale. C'est une nouveauté, Charlotte Cardin, Tant pis pour elle.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Elle brûle avec elle, prêtera l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle.
fini ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles. Elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, viens on s'échappe du système. Que je vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne rappelle. Regarde mes lèvres, qui invitent les tiennes. C'est notre lune de miel, et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux, et toi le dieu de mon ciel.
Charlotte Cardin sur Europe 1, tant pis pour elle.
Europe 1,
la France bouge. 21h, 22h,
Aurélien Fleureau.
La BO de Drive, on ne s'en lasse pas, je pourrais rester 3 minutes à écouter, mais je crois qu'on a une émission à faire. Kavinsky pour cette version avec Angèle et Phoenix. Nous sommes toujours avec Édouard Georges, directeur de Citroën France. Nous parlons bien sûr du marché automobile. En difficulté en termes de vente de voitures neuves depuis 3 ans, quelle solution pour inverser la tendance? Eh bien, on l'a compris, Citroën mise notamment sur sa C3 version électrique, moins de 14 000 euros, en comptant les primes, évidemment, des tarifs plus abordables pour relancer le marché. Avec nous en studio également le coach du soir, Gilles Attaf, le président de la certification Origine France Garantie, qui fonctionne sans problème donc pour les voitures qui sortent de l'usine Stellantis de Rennes, le C5 Aircross notamment de
j'espère,
Citroën.
On espère.
En tout cas, c'est sûr qu'il sort de Rennes. J'ai suivi le reportage pour Europe 1. Je peux vous garantir
ça serait une belle image pour nous d'avoir cette voiture certifiée Origine France Garantie.
Effectivement, ce sera un joli sujet à suivre de notre côté. La France bouge, c'est bien sûr le rendez-vous des entreprises qui innovent, qui inventent, et c'est le cas de One Park.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Et c'est donc à vous, David Vandenborne. Vous êtes le cofondateur de One Park, une start-up qui donc optimise les places de stationnement. Avant d'en parler en détail, un petit mot de votre parcours. Vous avez 37 ans, après la fin de vos études. Comment justement est venue cette idée? Est-ce que c'était une envie d'entreprendre ou pas forcément? Est-ce que voilà, ce sont des rencontres? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le cheminement jusqu'à One Park?
Alors c'était multifactoriel, Aurélien. C'était à la fois une envie d'entreprendre, d'amener des solutions clés en main qui permettent aux automobilistes de pouvoir affronter la difficulté et la problématique du stationnement qu'on connaît tous, que ce soit dans les grandes agglomérations, à proximité des gares ou des aéroports. On avait remarqué qu'un certain nombre d'industries qui avaient les mêmes caractéristiques que celles du stationnement, notamment l'hôtellerie, le ferroviaire, l'aérien, la restauration, s'étaient digitalisées dans les 20-30 dernières années. Et par le fruit d'une rencontre justement à l'incubateur de l'ESSEC, qui est l'école qu'on a fait en commun avec mon associé, mais il y a une quinzaine d'années d'intervalle, on a eu peu ou prou la même idée au même moment. Et à défaut de se regarder en chien de faïence, on a décidé de s'associer.
Oui, vous ne vous connaissiez pas plus que ça. En tout cas, c'est l'envie commune, l'idée commune. On s'est dit, bon, plutôt le faire ensemble.
Absolument, c'est exactement ça. Lui a un passé d'ancien banquier d'affaires. Il a fait du conseil en fusion-acquisition dans des grandes banques d'affaires anglo-saxonnes pendant une dizaine d'années. Et moi, j'étais encore étudiant à ce moment-là, à la fin de mes études.
Première expérience professionnelle.
Absolument.
Je cofonde donc une entreprise. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est à vous pour le pitch. Vous avez une minute. Comment présenter OnePark? Allez-y.
Alors, OnePark, on est devenu, en 10 ans, le leader européen de la réservation de parking en ligne. On permet aux automobilistes de comparer et réserver leur place de stationnement à l'avance ou à la dernière minute, toujours au meilleur prix, à travers un réseau de bientôt 4000 parkings dans 8 pays en Europe. On travaille avec deux typologies de parkings bien distinctes, mais très complémentaires. D'une part, des parkings publics, idéalement situés dans les centres-villes, à proximité des gares ou des aéroports et dans lesquels on a tous l'habitude d'aller se garer. Et également des parkings privés, essentiellement d'hôtels. Et c'est là où réside la vraie innovation de OnePark, de rendre accessibles ces parkings qui ne l'étaient pas jusqu'alors au grand public, notamment à travers la technologie qu'on y déploie. Depuis le lancement du produit, il y a quasiment 10 ans jour pour jour, on a fédéré une communauté de 5 millions d'automobilistes, déployé notre offre dans 500 villes en Europe, levé environ 80 millions d'euros auprès de grands acteurs et de grands industriels de notre marché. Et on s'est imposé comme le leader européen de ce marché. Et on assure aujourd'hui quotidiennement la réservation de plus de 350 000 heures de stationnement.
Et donc voilà, parfait pour la minute, c'est très clair. Et donc du coup, bah, cette logique de se dire, il y a des places libres, globalement, qui sont assez peu souvent utilisées. Comment on arrive à les optimiser? Comment on arrive à créer l'outil, justement? Comment vous avez réussi à créer l'outil qui allait permettre ça? C'était d'abord d'aller convaincre les propriétaires de ces places, ou est-ce que aussi d'être bien sûr que l'outil d'innovation technologique fonctionne?
Figurez-vous que c'est globalement un hybride entre les deux.
Oui, on peut parler d'hybride aujourd'hui.
Sans mauvais jeu de mots. Non, mais pour être parfaitement transparent avec vous, on a d'abord porté une vision, l'envie de mutualiser ces espaces de stationnement sous-exploités, de les rendre accessibles au grand public et de digitaliser cette industrie qui l'avait pas été. Ouais. Et on s'est dit que avant d'aller taper à la porte des opérateurs de parking public dont c'est le métier, qui sont des exploitants professionnels sans aucune crédibilité, c'était peut-être un petit peu cavalier de le faire comme ça. On a imaginé que les hôtels allaient être de très bons partenaires pour pouvoir commencer à développer notre produit. Pourquoi? Parce que, alors c'est pas une phrase qui vient de moi, mais d'un directeur d'hôtel, le parking c'est de l'hôtellerie pour voiture, c'est la même logique économique, ouais. C'est un stock de places fini comme un stock de chambres fini. Ces gens-là sont hyper enclins à digitaliser leur offre, à les distribuer sur des plateformes qui intermédient la relation avec le client, Booking, Expedia pour ne pas les citer. Et donc on s'est dit que c'était vraisemblablement les bons acteurs avec qui co-construire, pour répondre à la question, notre produit main dans la main. Et donc on a pris notre petit bâton de pèlerin il y a 10 ans. On est allé taper à la porte de ces différents établissements hôteliers, notamment du groupe Accor qui est rentré au capital quelques années après, à proximité des gares parisiennes ou des aéroports parisiens.
Bref, ils ont été convaincus.
Je confirme. En leur demandant si d'aventure une solution comme ça existait, s'ils auraient envie de bosser avec elle. Évidemment, la réponse était plutôt positive. Ils nous ont demandé comment fonctionnait la solution. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait juste pas de solution. Donc, ils nous ont exprimé leurs contraintes et leurs besoins.
Ouais, c'est ça.
Et on a littéralement co-construit main dans la main quelque chose qui s'adapte parfaitement à leur problématique opérationnelle de gestionnaire hôtelier, avec l'idée de réplicabilité du modèle, scalabilité, comme on aime le dire dans la tech maintenant, en se disant, si ça fonctionne ici sur un établissement, ça fonctionnera partout ailleurs, et on aura la possibilité de passer à l'échelle en allant dans toutes les grandes agglomérations européennes et probablement demain mondiales.
Et donc, avec cette logique aussi, dans les aéroports, les gares notamment, où ça fait sens également. Je me tourne vers le coach, évidemment, Gilles Attaf, votre regard tout simplement sur OnePark, qu'est-ce que vous avez notez-vous?
Déjà, je suis extrêmement impressionné. Je trouve ça c'est remarquable d'avoir réussi à devenir comme ça un leader européen. Et ça prouve qu'il y a les scalops françaises qui sont capables de devenir des leaders européens. Donc, je trouve ça absolument remarquable. Je trouve que ça coche énormément de cases. Et ça, c'est aussi absolument remarquable, il faut le dire. Le sujet d'optimiser la place, d'optimiser le prix. Je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que vous avez réussi à mettre en place tous les leviers pour que une société puisse fonctionner d'une manière aussi efficace. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le mouvement actuel au niveau de la voiture aujourd'hui, dans les centres-villes, la difficulté qu'on a aujourd'hui à pouvoir se garer, je trouve que c'est peut-être un moyen de faire revenir les voitures dans les centres-villes. Et ça, je trouve ça très intéressant.
Vous avez l'impression, effectivement, de David Vandenborn, que ça a pris du sens de plus en plus quasiment là, au fil de ces quelques années avec ce que vient de dire Gilles sur cet aspect de c'est compliqué dans certaines grandes villes d'arriver à circuler, de trouver la place, et donc ça enlève une vraie anxiété pour l'automobiliste.
Oui, absolument. Bon, déjà Gilles, un grand merci pour vos mots touchants qui nous font droit au cœur. Je pense que l'équipe sera ravie d'entendre ça. Et oui, la voiture, alors je suis pas le mieux placé pour en parler ici, mais reste le mode de transport préféré des Français. On a un parc automobile de près de 40 millions de véhicules, dont la croissance est marginalement décroissante, mais qui reste de fait le mode de transport préféré des Français.
C'est ça.
Aujourd'hui, il est devenu de plus en plus compliqué de se garer dans les grandes agglomérations françaises. Si on prend l'exemple de Paris, on a le nombre de places de stationnement sur voirie qui a été divisé par deux dans les 15 dernières années. Il est absolument fondamental pour les automobilistes de pouvoir se garer quand ils souhaitent se déplacer, notamment les gens qui ne vivent pas à Paris, parce que seulement 20% des Parisiens sont équipés de voitures, donc si on veut continuer à faire en sorte que le commerce de proximité se développe, que les gens puissent trouver une place et qu'on pèse pas indirectement sur la croissance économique locale, c'est fondamental d'amener des solutions qui permettent, un, de mutualiser les espaces existants, donc qui évitent et qui nous affranchissent de la construction de nouveaux espaces qui n'ont pas forcément l'utilité, et puis en plus on n'a pas l'emprise foncière qui le permet. Deuxièmement, ça évite que les automobilistes tournent en rond pour trouver une place de stationnement. Aujourd'hui, un automobiliste passe en moyenne 20 minutes par jour pour trouver sa place. Ouais. Ce qui veut dire que s'il conduit un peu plus de 50 ans, ce que je souhaite évidemment à nos amis de chez Citroën, il va passer une année entière de sa vie à chercher des places de stationnement, ce qui n'a juste aucun sens, et notamment eu égard à la technologie dont on dispose. Ouais. Donc, on optimise la mutualisation des espaces existants, on permet de désengorger la voirie et la quote-part du trafic qui est lié à la recherche de place, on permet de diminuer les émissions de CO2 qui, corrélativement, sont liées à ça, et indirectement, de redynamiser l'activité des centres-villes, et pas que des centres-villes, des gares, des aéroports, des lieux d'événements, pour amener des solutions clés en main, qui vont dans le sens d'ailleurs des politiques publiques qui sont mises en place. Développer des nouveaux modes de transport alternatifs, plus green, c'est très bien, je pense que c'est fondamental d'avoir une offre alternative. Néanmoins, il faut quand même continuer à penser aux automobilistes. L'idée n'est pas d'augmenter l'usage de la voiture, mais de favoriser l'usage de ceux qui le choisissent au quotidien et qui n'ont pas forcément d'autres alternatives.
Les commerçants vous remercient, je pense, d'optimiser les places de parking dans les grandes villes. Il y a un énorme sujet, et ça, il y a quand même ce sujet économique. Moi, ça me donne envie de reprendre la voiture. Je me balade en scooter tout le temps dans Paris parce que j'habite en banlieue. Et je me dis finalement, là, je vais peut-être avoir une solution pour reprendre ma voiture pour venir au bureau.
Et en plus, il y a un intérêt économique aussi, parce que si on se dit, voilà, le grand parking que je connais, qui, certes, effectivement, peut être pratique ou pas, ça peut aussi dépendre des véhicules, mais ça a un coût. Là, l'objectif aussi, pour vous, c'est d'arriver que ce soit intéressant pour des acteurs comme Accor, par exemple, on l'a compris, mais aussi pour l'automobiliste.
Tout à fait, absolument.
Donc on peut dire qu'en termes de réduction,
à peu près moins 50% par rapport au prix pratiqué traditionnellement dans les parkings en sous-sol. Et alors là, si on compare à la voirie parisienne, mais bien à l'augmentation tarifaire, là, on est plus qu'à...
Et on a sa place garantie en plus.
Absolument, voilà. Oui. La promesse client, c'est vraiment ça. C'est quand vous utilisez OnePark, vous avez la possibilité d'avoir une place qui vous attend à proximité de votre point de destination. Il y a un certain nombre de zones qui sont quand même assez anxiogènes en termes de
déplacement. C'est très rassurant. Je trouve qu'il y a un côté rassurant.
Voilà. Oui, c'est ça. Tout à fait.
On s'enlève
Oui, bien sûr, vous prenez un train, vous n'avez pas envie de rater le train. Le train vous attendra pas à votre place de parking. Si, en revanche, non seulement c'est rassurant parce que vous vous affranchissez de ce caractère très anxiogène en termes de est-ce que je vais trouver une place, va-t-elle être disponible, si oui, à quel prix. Deuxième élément de la promesse, le prix. On négocie systématiquement des tarifs très avantageux pour nos utilisateurs, donc 5 millions d'automobilistes, et notamment depuis l'entrée de Total Energy au capital.
Ouais, ça c'est une des grosses infos pour vous 2025 qui va vous occuper en 2026.
Absolument.
Vous pouvez nous la résumer en quelques mots?
Bien sûr, on a une singularité dans l'écosystème tech français. On a quasiment que des grands opérateurs industriels au capital chez nous.
La SNCF notamment.
Absolument, ouais. On a d'abord fait rentrer Keolis, qui est la filiale de transport public du groupe SNCF, et qui est propriétaire d'EFIA, qui est le leader des parkings en gare. Ensuite, on a fait rentrer le groupe Accor dans la continuité naturelle du partenariat qu'on a mis en place, et on a déployé la solution sur plusieurs centaines d'établissements Accor en Europe, et les résultats sont super, super importants pour eux, c'est très significatif.
Oui, ça marche aussi hors de France, il n'y a pas de raison.
Non, absolument, et par exemple, pour un groupe comme Accor, pour prendre cet exemple-là, c'est près de 6 millions d'euros d'EBITDA incrémental qu'on leur génère chaque année. Pourquoi je parle d'EBITDA, d'excédent brut d'exploitation? Parce qu'il n'y a pas de coût en face, donc c'est quelque chose qui va directement en bas de leur compte de résultat et qui est hyper intéressant.
Donc de proposer ce prix raisonnable pour l'automobiliste
tout
aussi,
à fait.
Malgré tout.
En alignant les intérêts. Exactement. Derrière, on a fait rentrer Aéroport de Paris pour pouvoir déployer l'offre des parkings à Roissy et à Orly, et plus récemment Total Energy dans une logique un peu différente. Les trois premiers, c'était on a les moyens de nos ambitions et on nous apporte des places de parking pour faire grossir et accélérer la construction de notre réseau. Mmh. Et là, chez Total, c'est le contraire. C'est plutôt des clients, des automobilistes. Ils sont éditeurs d'une carte qui s'appelle la carte Fleet, qui est une carte privative, multiservice, qui est utilisée par 400 000 corporates en France, 2,3 millions d'automobilistes, qui leur permet de payer pour leur stationnement notamment. Et ils ont vocation à accélérer ces services à valeur ajoutée autour de l'automobile pour servir de plus en plus l'usage de leurs utilisateurs, tout simplement. Et aujourd'hui, grâce à ce partenariat, on dépasse le cap symbolique des 5 millions d'utilisateurs. Donc c'est intéressant.
Effectivement, le terrain de jeu s'est agrandi. Édouard Georges, le patron de Citroën France, votre regard sur ce que propose One Park et sur la place de la voiture?
C'est extrêmement positif parce qu'en fait, effectivement, ça permet à des clients de trouver du coup une offre qui leur permet d'aller d'un point A à un point B. On est quand même vraiment dans le cœur de la mobilité. Et puis positif également dans le fait qu'en fait, on fait aussi une bonne affaire quand on choisit d'aller se garer avec une place sur One Park. Donc je pense que c'est un écosystème de mobilité accessible qui finalement occupe l'industrie automobile et le secteur automobile dans son ensemble. On a besoin de retrouver des coûts qui sont maîtrisés, partagés. Et je crois qu'effectivement, savoir où est-ce qu'on va se garer quand on part dans une grande ville chercher son train, chercher son avion, c'est très rassurant en fait.
Gilles Attaf, notre coach, pour permettre justement de grandir, de se développer, quelles seraient vos recommandations parce que là, voilà, leader européen, mais c'est très concurrentiel aussi. David a aussi ça en tête. Donc, se dire, voilà, comment consolider cette place de.
Je vais plutôt lui demander comment faire grandir Origine France Garantie. Aujourd'hui, ça va très vite et c'est très impressionnant. Non, mais je pense qu'il y a des leviers qui sont naturels, j'imagine, notamment tout ce qui peut être abonnement, tous ces sujets. Par contre, j'imagine que. Gérer des industriels au capital de ce niveau, ça doit pas être simple. Et est-ce que vous allez garder la stratégie que vous avez en tête dès le départ? Je pense que c'est un enjeu qui va pas être simple à régler, mais en tout cas, c'est passionnant. Enfin, les avoir à côté.
Il a le sourire.
Il a pas l'air d'avoir
peur. Peut-être que parfois c'est compliqué. C'est clair, raison.
Mais c'est sûr que c'est, en tout cas, je pense que c'est une stratégie magnifique que vous avez mise en place. Je trouve que on a tout à apprendre de cette scalope et bravo encore une fois.
Bon. Ah, merci Gilles. C'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on a choisi délibérément. On n'a pas eu le couteau sous la gorge, on ne l'a pas imposé. Donc déjà, on en est ravis, premièrement. Deuxièmement, ils nous ont apporté les moyens de nos ambitions, je disais plus de 75 millions d'euros, donc c'est quand même assez conséquent pour nous avoir permis d'investir et de développer, d'ouvrir 8 marchés, d'accélérer sur l'innovation technologique, le produit, etc. etc. En effet, on n'a pas forcément les mêmes échelles de temps, on va très 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 vite, ils ont une inertie naturelle de par la taille de leur groupe qui fait que parfois l'horizon temporel sur lequel on a besoin d'exécuter, d'avancer n'est pas forcément le même. Mais en même temps, on sait joindre l'utile à l'agréable et faire en sorte de créer des ponts où on s'apporte mutuellement. Peut-être que nous, on leur insuffle une énergie pour avoir un peu plus d'agilité, de mobilité, sans mauvais jeu de mots. Et réciproquement, ils nous apportent des moyens, de la cohérence, de la consistance, de la robustesse des process. Et c'est intéressant. Pour l'avenir, en effet, il y a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, on a un marché européen qui commence à se consolider, à se concentrer. Aujourd'hui, One Park a vocation à continuer à accélérer et à travers sa croissance organique, mais aussi en réalisant des opérations de croissance externe. On a envie d'être plus que partie prenante, de mener la danse, entre guillemets, sur ça. Et je crois qu'on a l'écosystème capitalistique et le soutien pour pouvoir le faire. Il se peut, pour rebondir sur ce que Gilles disait, qu'à un moment, on soit également amené à faire entrer des financiers, des fonds gross equity, private equity, pour peut-être passer à l'étape supplémentaire en termes de financement et avoir la capacité de renforcer notre présence dans différents marchés, d'en développer de nouveaux, notamment en faisant l'acquisition de certains concurrents.
Dernier mot rapide sur l'aspect recrutement, parce que c'est aussi ce qui va vous occuper en 2026, passer, je crois, de 75 à une centaine de personnes.
Oui.
Pour quelles raisons et pour quel type de poste?
Alors, plusieurs raisons. Pour, d'une part, accélérer notre croissance sur nos marchés historiques et renforcer notre leadership sur notre activité de place de marché. Ouais. Le One Park existe depuis 10 ans. Deuxièmement, pour développer et accélérer sur notre nouvelle ligne de produits, dont je peux me permettre peut-être de parler un instant.
Rapidement, ouais, bien sûr.
On a développé il y a un an et demi une nouvelle ligne de métier chez nous qui s'appelle Flow, F-L-O-W, qui est une combinaison logicielle et matérielle à destination des parkings privés, hôtels et entreprises, pour leur permettre d'aller un cran plus loin et aujourd'hui d'automatiser, de digitaliser et d'optimiser la gestion de leur infrastructure de stationnement, mais d'une manière plus professionnel, complètement automatisé, pour aller encore plus loin avec nous. Donc là, il va falloir recruter des profils tech, des profils produits, des profils commerciaux, des profils gestionnaires de comptes et renforcer les équipes. Le support client qui continue à grandir, parce qu'il est complètement internalisé chez nous. Et ça, c'est au cœur de notre promesse client. On prend la main de l'automobiliste de A à Z dans son expérience de la phase de recherche, réservation, paiement et accompagnement en stationnement et post-stationnement. On va avoir également besoin de profils financiers supplémentaires pour aborder ces prochaines étapes, je l'espère, de la consolidation européenne et continuer à faire grandir
Une année 2026 bien chargée qui s'annonce. Merci à vous, David Vandenborn. Vous restez bien sûr avec nous, tout comme Édouard Georges, directeur de Citroën France. Allez, juste avant la dernière partie de notre émission, nouvelle pause musicale sur Europe 1, la France bouge. Revient juste après les Jackson 5. I want you back. You back les Jackson 5 sur Europe 1. Avant de poursuivre notre émission, un rendez-vous antenne à ne pas manquer. Chaque jour entre 11h30 et 13h, Christine Kelly vous attend pour débattre de l'actualité en direct avec ses chroniqueurs et ses invités. Christine Kelly et vous, du lundi au jeudi sur Europe 1.
Europe 1.
La France bouge. 21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
Les Beatles, évidemment, suite de notre émission consacrée au secteur automobile, à la mobilité, à la place de la voiture, que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne. Nous sommes avec Édouard Georges, directeur de Citroën France, avec David Vandenborn, cofondateur de One Park, et bien sûr notre coach du soir, Gilles Attaf. Et notre troisième invité, eh bien lui, il est à la tête d'un salon automobile qui regarde dans le rétro.
Europe 1.
La belle histoire de la France bouge.
Rebonsoir Romain Grabowski. Merci.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Avec nous, belle histoire, parce que Rétromobile, oui, c'est une vraie success story, on peut le dire, depuis quelques années. Le modèle des salons classiques, c'était un petit peu compliqué. Alors, il y a évidemment l'aspect Covid, mais aussi même financement pour les constructeurs. Citroën sera au Mondial de Paris, mais ce n'était pas forcément une logique tout le temps, parce qu'il y avait de vrais sujets économiques. En revanche, pour un profil de salon comme Rétromobile, là, il y a un vrai engouement.
Oui, un vrai engouement, une vraie success story à la française. Hein. Le salon fête cette année ses 50 ans.
C'est ça.
Il a été lancé en 76 par une bande, on les appelle avec beaucoup de respect, une bande de luberlus, à l'époque compris qu'à terme, il y aurait une différence. Aujourd'hui, maintenant, c'est évident, mais ça ne l'était pas en 76. Il y aurait une différence entre un vieux véhicule et un véhicule de collection. Voilà. Ouais, et ils ont commencé à collectionner, à exposer, et puis petit à petit, l'événement est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il rassemble beaucoup plus que des passionnés véhicules de collection. L'événement rassemble les amoureux tout court de l'automobile.
C'est ça, c'est devenu ce rendez-vous-là, où voilà, concrètement, si on se projette dans quelques jours en 2026, là, qu'est-ce qu'on va voir notamment à Rétromobile ? Pourquoi ? Il faut venir.
Vous allez voir tout ce qui se fait de mieux en matière de véhicules de collection. Évidemment, l'ADN de Rétromobile, c'est de surprendre le visiteur. Voilà. Après 50 ans, il faut se réinventer. Et tous les ans, c'est d'amener des autos, des sorties de grange, des autos qui sortent de collections privées. Mmh. Et je dis souvent, si le salon n'existait pas, il faudrait un passe-partout avec une multitude de clés et pouvoir traverser le monde, etc. Donc, c'est ça la magie.
Ouais, d'arriver à avoir autant de voitures de ce type. Ouais.
Donc, c'est une diversité d'autos. C'est des rencontres, parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est l'automobile qu'on voit, mais c'est si en plus on a le pilote en face, si on a le designer, l'ingénieur, c'est la rencontre qu'on va créer autour de tout ça. Et puis, c'est l'occasion de passer une journée un peu hors du temps, de regarder dans le rétro.
Mais justement, ce côté voilà, qui fait rêver, qui nous rappelle notre enfance, on a voulu aussi écouter quelques Français pour ce rapport à la voiture, évidemment. Diana Ngoma est allée poser la question. Je vous propose d'écouter.
Ah, dans les voitures qui font rêver, il y a évidemment toutes les grandes voitures luxueuses, mais moi, celle dont je me souviens, il y a la Ferrari F40. Ça m'avait fait rêver. C'était une voiture il y a longtemps, mais qui est très jolie. Et évidemment, toutes les Bugatti. Dans les voitures qui me font penser à mon enfance, il y a la voiture de ma grand-mère, qui était la 4 chevaux, dans laquelle je suis monté quand j'étais petit. Hein. Une des premières voitures aussi que j'ai eues en famille, c'était la première Renault Espace.
Alors moi, j'aime pas trop les voitures modernes. Ça me fait pas du tout rêver. Moi, je suis plutôt voiture rétro. Moi, j'adorais avoir une Citroën DS de l'époque. Franchement, c'était tellement stylé. Sinon, la voiture de mon enfance, c'était une Renault 19 grise argentée que mes parents ont achetée d'occasion, je crois, à l'époque, et sur laquelle j'ai appris à conduire après. Donc vraiment, ça symbolise. Enfin, c'était 15 ans de ma vie, quoi. Donc voilà, donc j'étais très triste quand elle a dû aller à la casse.
Alors la voiture de mes rêves, moi c'est une Mercedes 300 SL. Donc je trouve que c'est la plus belle voiture de l'histoire de l'automobile. Une voiture avec les portes papillons, ce qu'on appelait les portes papillons. Je la trouve juste somptueuse. Donc ça serait la voiture de mes rêves, parfaitement inaccessible hein, évidemment. La voiture qui me rappelle mon enfance, alors ça n'a rien à voir, c'est la Volkswagen New Beetle. Alors en fait c'était une espèce de nouvelle coccinelle. Et en fait j'avais une nounou qui avait cette voiture-là. Et j'étais fan absolu de cette voiture, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, parce qu'elle était quand même très moche. Mais moi j'adorais cette voiture. C'est vraiment la voiture qui me rappelle mon enfance.
Donc voilà, des voitures qui font rêver, même si le design parfois peut pas séduire, mais en tout cas, c'est des moments de vie. Et voilà, tout ce qu'on a entendu là, ça résume parfaitement la logique de Rétromobile. C'est à la fois celles qui vont nous faire rêver, qui vont coûter parfois plusieurs millions d'euros, et puis la voiture aussi un peu plus vintage, souvenir. C'est vraiment ça l'idée, Romain.
Oui, la magie de la collection automobile, de roues, mécanique, etc., c'est que un propriétaire d'un Solex a 200-300 euros et un collectionneur. Au même titre qu'un collectionneur de la Ferrari F40.
Voilà, effectivement.
Donc, le salon.
On rajoute un ou deux zéros.
On rajoute quelques zéros, voilà. Le salon rassemble toute cette communauté. On parle bien d'une communauté qui se retrouve, etc. Alors, il est vrai que à Rétromobile, dans l'ADN, on trouve des choses qui sont extraordinaires.
Hein, typiquement, il y a l'aspect enchère, notamment.
Exactement.
Donc là, je sais que du côté de Gooding Christie's, notamment, on va pas mal parler de Ferrari. Et voilà, vous pouvez nous dire un petit peu, peut-être celle qui sera un peu la voiture phare, qui, je crois, alors j'ai vu différentes estimations, de 6 à 8 millions d'euros, peut-être même encore plus.
Oui, ils annoncent une vente qui devrait faire 40-50 millions d'euros.
Ouais, c'est le point de départ.
Voilà. C'est des chiffres qui sont assez fous. Mais
et pourquoi celle-ci, vous pouvez en en dire un petit mot. C'est une Ferrari, j'ai oublié.
Il y a une Ferrari California, il y a une Ferrari, il y a une châssis court. Voilà, c'est des autos. C'est l'offre et la demande. Déjà,
rares.
C'est Ferrari. S'il y a bien une marque qui a su cultiver son aura, etc., avec un marketing de rareté qui a été absolument, absolument incroyable, c'est bien cette marque. Donc, Ferrari reste la marque la plus chère, la plus désirable, on va dire. Et puis après, c'est l'offre et la demande. C'est des autos qui sont rares. Certaines ont été détruites. C'est des autos qui roulaient, qui ont eu. Alors tout à l'heure, on parlait de une, deux vies, trois vies. On en est peut-être à la cinquième, à la sixième ou à la septième.
C'est ça, effectivement. Et il y a aussi cet aspect sur le salon, un espace, je crois, à moins de 30 000 euros, c'est ça?
Oui, ce qui nous tient à cœur, c'est
le côté collection aussi.
Voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir des choses qui sont extrêmement rares. Des choses très chères, des pépites qu'on va chiner partout dans le monde, qu'on ramène sur le salon, c'est ça la magie. Mais un infime pourcentage des visiteurs pourraient éventuellement se dire « tiens, je repars avec ». En revanche, on a une zone, on a 150 véhicules qui vont s'échanger à moins de 30 000 euros. Beaucoup sont des youngtimers, sont des véhicules finalement assez récent façon de parler, hein, plutôt milieu des années 70 jusqu'à nos jours, voilà, qui est la partie de la collection qui est extrêmement à la mode. Mais on a aussi des choses un peu plus anciennes.
Et donc il y a aussi pas mal de belles choses à voir, évidemment, des expositions. Il y a notamment avec BMW le côté art car, donc vraiment des artistes qui ont mis leurs pattes sur certaines voitures. Il y a une expo Steve McQueen également aussi, donc ce côté artistique aussi, ça fait partie de Rétromobile chaque année.
Bien sûr, on essaye d'en apporter pour tous les goûts. On aura une exposition sur le rallye. On sait qu'on a beaucoup de passionnés de sport automobile qui sont présents. La grosse expo, c'est les BMW Art Car. À l'époque, un commissaire-priseur, Hervé Poulain, s'est engagé aux 24 heures du Mans et il a inventé un nouveau phénomène. Il a pris sa voiture, une BMW, il l'a fait peindre par Alexandre Calder. Ouais. Donc il avait eu le nez plutôt creux à l'époque. Et ça a donné une lignée. Il y a 7 véhicules. Et en fait, elles sont toutes venues durant une décennie partie pour 24 heures du Mans. Elles sont toutes reparties.
Et pour la première fois. Warhol également, je crois.
Warhol, Liechtenstein, Frank Stella, Jeff Koons. Enfin, voilà. Donc
oui, des petits noms. Voilà.
Ils ont
dessiné un petit truc. Voilà, tu vois, c'est sympa.
Légèrement coté. Et donc, pour la première fois, cette collection de 7 véhicules absolument unique au monde sera visible auprès du grand public en France.
Bon, bah top. Il y aura plein de choses. Il y aura plein de marques. Il y aura, par exemple, DS Automobile avec les voitures des chefs de l'État aussi. Ça, c'est toujours aussi sympa à voir. Évidemment, Édouard Georges, il y aura Citroën.
Et oui, on est de retour avec un stand Citroën pour Rétromobile, on est très heureux. Donc on aura notamment sur le stand une des premières deux chevaux A de 1939, il n'y en a plus que 4, hein, donc elle sera sur Rétromobile. On aura aussi des objets un peu futuristes, la C10 de 56, je crois que vous aimez beaucoup la Karine de 1980 qu'on aura sur le stand.
Il y a une logique de concept car, parce que Citroën a aussi toujours voulu innover, être un peu futuriste, donc c'est
cette logique. Oui, il y a à la fois ce côté concept car innovation, et on montre que dans l'automobile, il faut innover pour exister, et ça on a toujours été très fort au cours de son
Ça peut devenir parfois des voitures du quotidien.
Parfois, ça devient des voitures qu'on commercialise. Et puis, effectivement, aussi des voitures qui ont accompagné les Français. Là, je pense à notre deux chevaux A qui a connu une longue commercialisation jusqu'en 1990, au fait. Donc, on a plein de belles choses à voir sur Rétromobile avec le stand Citroën.
Donc, ouais, un grand stand Citroën. Petit tour de table rapide sur le voiture d'enfance ou de rêve, Gilles Attaf. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, vous?
Alors moi je rêvais d'avoir une 4 chevaux parce que c'est la première voiture de mes parents. Mais moi j'ai des souvenirs incroyables dans la DS Break de mon père, et donc je rêverais d'avoir une DS Break. Et je suis fan de Rétromobile, je prends un plaisir fou.
DS qui était à l'honneur l'année dernière,
beaucoup de moments où il y a beaucoup d'affect, c'est la Madeleine de Proust rétro, c'est vraiment super, et moi j'adore venir. Et on n'a pas énormément de moments comme ça qui nous replongent dans des moments heureux, et ça c'est ça en fait.
C'est ça, c'est l'automobile,
c'est l'automobile,
c'est ça. De vie.
Exactement, ouais, tout à fait.
David Vandenborn, vous aussi, la voiture de votre enfance ou qui vous fait rêver ou qu'on peut garer n'importe où.
Alors petite problématique.
Pour rester dans la logique de One Park.
C'est sa jeunesse. C'est la problématique. C'est que
j'ai pas mon permis de conduire, donc je suis pas le plus calé de la table en voiture.
Vous êtes pas
une Citroën ami.
Absolument. Alors j'allais en parler justement. Moi je suis fan de la Citroën ami. D'autant plus que je ne crois pas que de grands groupes automobiles se soient intéressés à ce type de problématique, et je trouve que c'est un gage de fiabilité, et c'est hyper intéressant que ce soit pour des gens qui ne sont pas titulaires du permis de conduire, pour des adolescents qui pourraient utiliser ça en alternative à un scooter par exemple, ou pour des gens qui se sont... peu importe. Non, j'aurais tendance à dire la deux chevaux de mon grand-père.
Bah oui, forcément, évidemment. Et Romain Grabowski, ce qui est intéressant aussi sur ce salon, c'est que voilà, il y a plein de nouveautés. Il y a mini-salon aussi, si j'ai bien compris. En tout cas, un espace sur les supercars, comme on pourrait l'expliquer. C'est quoi une supercar ?
Alors,
le Ultimate Garage Supercar, c'est ça ?
Ultimate Supercar Garage.
C'est, voilà, moi, ouais. Dans le bon an.
C'est tout nouveau, donc je vous pardonne pour cette fois.
Ouais, mais... moi, tu fais le même, on va dire. Hein, ouais.
Et c'est pas si petit, 15 000 mètres carrés, quand même, en oui. année une. En fait, le constat est le suivant. Depuis 4-5 ans, on a à la fois des exposants qui veulent venir avec des supercars, et donc je vais venir sur la ouais. définition juste après.
C'est et pas puis, que parce qu'elle est super.
Voilà, et on ouais, s'est bon. Aperçu que quand on avait des supercars, on s'est aperçu qu'on avait un succès incroyable auprès des jeunes. Voilà, et ces deux paramètres nous ont emmenés vers une intuition. On s'est dit, tiens, si on tentait de colocaliser avec Rétromobile, ce qui se fait de mieux en matière de véhicules de collection.
Donc c'est un vrai événement.
Un vrai, voilà. C'est un nouvel événement.
C'est pas juste un espace au sein
du salon. Exactement. C'est un nouvel événement dédié à cette mode, à cette mouvance du supercar. On l'a fait, et force est de constater qu'en un an, on a rempli 15 000 mètres carrés, Bugatti, Aston Martin, Pagani, Lotus, voilà, Bentley.
Des noms qui commencent à... On voit à peu près l'idée.
Lamborghini, voilà. Donc, toutes les marques seront là. Et qu'est-ce qu'une supercar ? Alors, c'est l'auto du superlatif. C'est des autos qui sont super chères, qui vont super vite.
C'est la performance, c'est l'esthétique.
C'est la performance, c'est, ouais. voilà.
Donc, parce qu'on peut dire que, je sais pas, Aston Martin ne fait pas que des supercars. Il y a certains modèles qui sont vraiment d'exception.
Tout à fait, tout à fait. Il y a des constructeurs qui font que des supercars. Vous prenez Pagani, oui. Vous prenez Koenigsegg, Bugatti, c'est dans leur ADN, ils savent faire que ça. C'est des autos à plusieurs millions d'euros et pour le coup, on n'est pas trop sur le thème de l'accessibilité automobile. Et après, vous avez des constructeurs qui sont premium, sportifs, qui, au sein de leur gamme, ont un véhicule de la typologie supercar.
Effectivement, et bien parfait. Rendez-vous à partir du mercredi 28 janvier pendant